Ça marche? Oui. Alors, merci de m'avoir invité à être parmi vous. C'est pas la première fois. Donc, ça veut dire que je vous ai ni traumatisé, ni trop assommé, ni trop déçu la première fois.
T'en profites pas, quand même.
Ouais, ouais. Donc le sujet qui m'a été proposé, c'est la théologie des dons dans l'Église. Et la première étude, c'est pour définir vraiment de quoi on parle quand on dit les dons. C'est un sujet qui est âprement discuté dans les Églises, pas seulement évangéliques d'ailleurs, depuis plus d'un demi-siècle. Mais ce n'est pas sûr qu'on sache vraiment de quoi on parle. Et par exemple, quand entre quelqu'un qui est plus charismatique et quelqu'un qui est franchement non charismatique, il y a une discussion du type le don des langues, tu n'as pas ça, bon, don des langues, don des langues, don des langues, d'un côté, puis l'autre qui répond par le don de nettoyer les vitres. Voilà, c'est, je crois, une situation très caricaturale. On a aussi besoin du don de nettoyer les vitres. Je pense que là, non seulement on parle de dons différents, celui de parler en langue et celui de nettoyer les vitres, mais on ne donne pas le même sens au mot « don ». D'où le fait qu'il y a beaucoup de malentendus et parfois pas vraiment de dialogue, mais chacun parle de son côté. Voilà. Donc il est important de savoir de quoi on parle, quel est le sens du mot « don » et à quoi ça se réfère, à quelle réalité. Alors le premier point que j'ai mis là, c'est les expressions « don »,« don de la grâce », »,« don spirituel ». Déjà, quelle expression on emploie? Alors « don de la grâce », c'est ainsi que plusieurs traductions récentes, dont NBS, dans laquelle je vais lire, mais aussi la Bible du Semeur, traduisent le mot grec, charisma, qui est utilisé notamment dans 1 Corinthiens 12, parce qu'il est formé sur la racine grâce. Donc c'est un effet de la grâce. En fait, dans l'usage courant en grec, il signifie tout simplement quelque chose qui est donné. Donc le mot « don » tout court suffirait pour traduire le sens du mot. Et c'est quelque chose que m'avait fait valoir Sylvain Romirovski, hein, qui est linguiste aussi. Il m'a convaincu. Et du coup, j'étais surpris de voir « don de la grâce » de la Bible du Semeur jusqu'au jour récent où quelqu'un m'a donné l'explication. Le référent principal pour la partie Nouveau Testament de la Bible du Semeur, ce n'est pas Sylvain Romirovski, c'est Jacques Ducold. Voilà. Don de la grâce, donc, simplement spécifie la racine du mot. Mais l'usage courant du mot dans le grec du 1er siècle, c'est quelque chose qui est donné. Mais je peux donner, effectivement. Donc, ce n'est pas forcément une aptitude. Parfois, ça l'est. Ce n'est pas forcément un talent. Mais si je vous donne un logement gratuit, c'est un charisma aussi, voilà, par exemple. Ou si je vous donne un cadeau de Noël, c'est un charisma aussi. L'expression don spirituel, alors j'ai apprécié le fait que ce soit pas dans le titre, mais que ce soit plutôt la théologie des dons dans l'Église, parce que c'est un débat un peu récurrent, mais nous l'avons actuellement dans l'Église baptiste de Cour. Il nous manque les dons spirituels, certains disent, ou il faut d'autres églises ont les dons spirituels, pourquoi pas nous? Dans l'expression dons spirituels, il y a la focalisation bien sûr sur certains dons, et nous y reviendrons, mais il y a aussi le fait que les dons spirituels viennent de l'esprit. Et que l'idée peut-être qu'un don musical, tout ça, il n'y a pas besoin que ça vienne de l'esprit. Hein, il y a beaucoup de non-chrétiens qui ont un don musical. Ce n'est pas que les dons musicaux ne soient pas importants. D'ailleurs, le charismatisme actuel met beaucoup plus l'accent sur la musique et la louange musicale que ne faisait le pentecôtisme classique, donc c'est surtout pas qu'il méprise la musique, mais voilà, il manque, certains pensent, ce qui est promis spécifiquement comme intervention de l'Esprit dans la vie de l'Église dans le Nouveau Testament. D'où l'expression sur laquelle on se focalise parfois, don spirituel. Alors nous allons bien sûr étudier cette problématique de manière honnête, mais quand on parle de la théologie des dons, c'est bien plus large que don spirituel compris au sens étroit. Nous parlerons aussi un peu des ministères, même si ce ne sera pas une théologie des ministères aujourd'hui et demain, parce que les deux sont liés. S'il y a des dons, dit Paul, c'est pour, il vaut mieux la traduction, construire que édifier l'Église. Et pour construire l'Église, il y a évidemment des ministères multiples. En plus, Paul, dans ses listes ou ses énumérations de dons, parfois il y met des ministères. Par exemple, 1 Corinthiens 12, 28, on pourrait dire qu'il mélange des ministères où il désigne carrément les personnes, apôtres, prophètes, enseignants, puis il continue avec des dons, faire ceci, faire cela. En même temps, du point de vue conceptuel, il ne faut pas les mélanger. Certains ministères ne correspondent pas forcément à un don unique, mais à plusieurs dons qui convergent, par exemple. Alors, avant de poursuivre, nous lirons quand même, là ce sera une assez longue lecture, le chapitre auquel nous ferons beaucoup référence, même si ce sera pas le seul passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, nous le lirons en entier. 1 Corinthiens chapitre 12, là je lis dans NBS, non pas parce que c'est en tout la meilleure traduction, mais c'est parce que c'est la Bible que j'aime transporter avec moi et puis que j'ai un peu annoté. Pour ce qui concerne, alors là c'est traduit les pratiques spirituelles, on pourrait aussi traduire peut-être encore mieux les manifestations spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs, ou plutôt des païens comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas qu'une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était, s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, c'est mis des maîtres, je préfère traduire des enseignants, ensuite il y a des miracles, ensuite des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Et cette dernière phrase est déjà l'introduction du chapitre suivant, du chapitre 13. Alors, j'arrive au deuxième point, dons multiples. Ce que j'entends par là, c'est que si le mot don veut dire quelque chose qui est donné, tout simplement un cadeau, quand on parle de don, il s'agit des multiples cadeaux de Dieu qu'il donne à l'Église, des cadeaux de Dieu qui ne sont pas pour que simplement il se regarde le nombril, mais qui sont des cadeaux pour la mission de l'Église. Alors, La vie intérieure de l'Église fait aussi partie de sa mission. C'est la mission de l'Église que chacun de ses membres soit sanctifié, qu'il fasse des progrès, qu'il passe par des étapes, parfois des retournements, des situations parfois vraiment bizarres qui font que il y a une nouvelle étape de la vie qui s'ouvre. Et pour chacun des membres, c'est dans l'Église, que, dans le rapport les uns avec les autres, que cela se fait. Et pour cela, il y a des dons, comme il y a des dons qui sont plus directement liés au contact avec le monde extérieur, que ce soit de l'évangélisation ou du service de la diaconie dans la société. Donc, de multiples cadeaux de Dieu pour la mission de l'Église. Et ce ne sont pas simplement les dons qu'on a dans les énumérations dont nous allons parler bientôt. Par exemple, dans Romains 1, 11, Paul parle d'un don qu'il pourrait communiquer aux Romains quand il les visitera, mais il ne dit pas ce que c'est, et ce n'est pas forcément un don qu'on pourrait définir étroitement, étiqueter. il dit « Car je souhaite vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons de la grâce, quelques dons spirituels. » En fait, c'est une seule expression, quelques dons. Mais comme « don » est toujours traduit « don de la grâce » dans NBS, ils ont doublé l'expression. Pour vous communiquer littéralement, simplement quelques dons spirituels, donc qui ont un rapport avec le Saint-Esprit, afin que vous soyez affermis. Alors peut-être certains ont cette interprétation que Paul avait une autorité que tout le monde n'avait pas, eh bien, en leur imposant les mains, il allait leur donner quelques dons extraordinaires qu'ils ne pouvaient pas avoir autrement. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu dire. Sa simple présence, son enseignement, tout ce qu'il allait partager avec eux, allait être un cadeau pour eux. Je le prends plutôt comme ça, avec la présence de l'Esprit. Et puis, quand il écrit aux Corinthiens, avant le chapitre 12, où il répond d'ailleurs à une question des Corinthiens sur, c'est le premier verset pour ce qui concerne littéralement les choses spirituelles. Donc on peut traduire par pratique spirituelle ou manifestation de l'esprit. Donc les Corinthiens se posaient une question sur certaines manifestations de l'esprit. À voir la manière dont Paul déroule l'argumentation, mais ça devient clair au chapitre 14. Les Corinthiens mettaient en tout cas parmi ces manifestations de l'esprit la glossolalie, les langues. C'est un grand sujet de débat. Et c'est au chapitre 14 qu'il en vient, au débat concret. Hein. Il fait une longue introduction en généralisant plus. Ça, c'est la méthode de Paul. Mais avant ce chapitre 12, où il répond à une question qui était probablement une question sur le don des langues, il a répondu à une autre question sur le mariage et le célibat, au chapitre 7. Puis il emploie là une expression qui ressemble aux expressions du chapitre 12, mais qui ne se réfère pas du tout en fait aux mêmes réalités. Il dit au verset 7, à Corinthiens 7, verset 7, je voudrais bien que tous soient comme moi, donc non mariés, mais chacun tient de Dieu un don particulier de la grâce, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Chacun un don, pas tous le même. C'est un peu le même langage que dans 1 Corinthiens 12, sauf que là, il ne parle ni de langue, ni de prophétie, ni même de dons à exercer différents services, mais simplement le fait d'être marié ou d'être célibataire et de pouvoir le rester sans frustration extrême ou sans tomber dans la tentation, qui est un don. Donc, être marié, être célibataire et pouvoir le rester en vivant une vie équilibrée, ce sont des dons. Donc toutes sortes de réalités différentes peuvent être des dons. Ce qui est important, c'est que c'est des cadeaux de Dieu, pas simplement pour l'individu, mais donc bénéficie l'Église. L'Église bénéficie du fait qu'il y a des familles, qu'il y a des personnes mariées, des familles. Elle bénéficie du fait qu'il y ait des célibataires, comme l'Église bénéficie donc de ce qu'on appelle plus spontanément les dons, tel et tel don. Alors on en vient aux énumérations de dons dans le Nouveau Testament. Je parle, et là j'ai un nouveau polycope. Où est-ce que... Ah oui, c'est là qui finit ça. Oh. Je pensais que vous seriez beaucoup plus nombreux, donc de toute façon il y a des feuilles en trop. Voilà. Alors j'appelle ça des énumérations et non pas des listes. Parce que déjà, beaucoup l'ont remarqué, aucune n'est exhaustive. La preuve, c'est que ce n'est jamais exactement les mêmes qui sont cités d'une liste à l'autre, d'une énumération à l'autre. Même à l'intérieur d'un même chapitre, d'une même argumentation, 1 Corinthiens 12, ça revient, il y a deux fois une énumération, puis ce n'est pas deux fois exactement les mêmes qui sont énumérés, mais en partie les mêmes. Ensuite, en plus de ne pas être exhaustif, ce ne sont pas exactement des listes où, je ne sais pas, si vous faites une liste de commissions, par exemple, et que vous voulez appeler, il faudrait que je trouve deux synonymes qu'on pourrait mettre dans une liste de commissions. Rampon ou Doucette. En Suisse, c'est deux noms pour la même salade. Hein. Si je veux acheter de cette salade, je mettrai soit rampon, soit doucette, parce que je ne veux pas acheter deux choses différentes. Donc c'est une liste. Mais ici, j'ai l'impression que parfois, Paul met à la suite rampon et doucette, en gros. En fait, deux noms pour la même chose. Voilà, oui. Tout simplement parce que la liste, ces énumérations n'ont pas forcément pour but de classer. Alors c'est en partie une classification quand même, ça différencie en tout cas, mais n'a pas pour but de donner une sorte de classification scientifique, mais de communiquer dans un contexte où il y a des questions, où il y a un débat. C'est vraiment un contexte rhétorique, hein, on discute, on essaye de persuader. On essaye de se persuader l'un l'autre parce que les Corinthiens ont aussi écrit à Paul pour essayer de le persuader avant qu'il leur écrive, pour les persuader d'autre chose, parce qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque, pas entièrement, heureusement. Et parfois, on peut citer une chose deux fois dans une énumération sous deux noms différents, simplement pour insister là-dessus. Alors là, ce serait par exemple parole de sagesse, parole de connaissance. Donc, il est fort possible que ça se réfère à la même chose. On n'est pas sûr parce que, honnêtement, parmi les interprètes d'aujourd'hui, personne ne sait vraiment de quoi ça parle. Hein. Si on est honnête, parole de sagesse, c'est de parole de connaissance. Ouais. Oui, oui. J'ai été. Par exemple, un des meilleurs commentaires sur un Corinthien est de Fee, hein, qui est pentecôtiste, il le dit, mais il est aussi exégète, il a étudié le texte dans son contexte historique. Alors, dans le milieu d'où il vient, le milieu d'église, si on n'a pas étudié la théologie, on dira parole de connaissance, c'est connaissance surnaturelle. Hein. Je reviendrai à cet exemple-là, Élisée qui pouvait faire l'agent secret dans l'armée syrienne sans jamais avoir été là parce que Dieu lui communiquait ce qui se disait dans l'état-major syrien. Voilà. Mais si c'est des synonymes, eh bien Paul les cite non pas parce qu'il donnerait une importance particulière à cela, mais là c'est pour faire un bout de chemin avec les Corinthiens. Parce que sagesse et connaissance, ça revient tout le temps dans le reste de la lettre, c'était des valeurs prisées par les Corinthiens. Ils s'enorgueillissaient de la sagesse et de la connaissance. Donc Paul recadre les choses en disant « ça vient du Saint-Esprit » et après tout ce qu'il aura dit sur le Saint-Esprit, il leur aura montré que le Saint-Esprit leur donne non pas la sagesse dans le sens où ils pensent, mais une sagesse dans un autre sens, sagesse centrée sur le Christ crucifié. Voilà. Mais... Et du coup, là, il les rejoint en insistant même, c'est une manière un petit peu de les amadouer, en commençant par dire sous deux formes différentes la même chose. Voilà. Ce qui fait que dans cette liste de 1 Corinthiens 12, 8 à 10, il n'y a pas 9 dons de l'esprit, mais peut-être qu'il n'y en a que 8. Et ce n'est pas les seuls 8 dons qui existent, hein, ce n'est pas exhaustif. Si on regarde donc ces énumérations, 1 Corinthiens 12, 8 à 10, il y a parole de sagesse, parole de connaissance, foi, don de guérison au pluriel, opérer des miracles, prophétie, discernement des esprits, langue, interprétation des langues. Une liste qui ressemble mais qui est différente en 1 Corinthiens 12-28 qui commence par trois désignations de personnes exerçant un ministère, c'est les apôtres, les prophètes et les enseignants, puis miracles, dons de guérison, dons de capacité à secourir, c'était de NBS, là j'ai pris ce qui est de la TOB, assistance, mais littéralement des aides, on ne sait pas aider à quoi, mais aider, direction et langue. Si on retourne, alors ce qui est aussi important, c'est que dans 1 Corinthiens 12, tout cela est lié à l'œuvre de l'Esprit. Donc Paul parle vraiment des dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12. On tourne la page, on arrive dans la liste de Romains 12. Il y a en partie les mêmes et en partie des autres, mais prophétie s'y retrouve, par exemple. Et pourtant, là, il est question de charisme. Charisma, de nouveau le mot utilisé, mais il n'y a aucune référence au Saint-Esprit dans le passage. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne ses dons. Donc ce n'est pas exclusif, hein, que le Saint-Esprit donne, c'est aussi Jésus qui donne. Mais c'est pour dire que on peut parler des mêmes dons sans dire que c'est des dons de l'Esprit. Voilà, ça dépend du passage. Paul en parle soit comme de dons de l'Esprit, soit comme de dons de Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus. Donc dans Romains 12, versets 6 à 8, il y a prophétie, service, enseignement, encouragement, générosité, direction avec un autre terme que dans 1 Corinthiens 12. Alors c'est souvent, dans le second, c'était celui qui préside. Moi je pense qu'il s'agit de direction d'église. Ils n'ont pas de la présidence d'une réunion. En grec, ce ne serait pas le mot qui serait utilisé pour présider un rassemblement. C'est vraiment la direction de l'Église. Direction qui. Le terme se retrouve dans 1 Thessaloniciens 5,12, en fait. Et puis, compassion. Dans Éphésiens, c'est vraiment une liste de ministères. Et là, il y a tout un développement sur les dons que Dieu fait à l'Église. À l'Église, alors là, est universelle. Et c'est un autre mot qui est utilisé en grec pour don, c'est le mot doma, et non pas le mot charisma. On peut dire que c'est un synonyme. Mais là, les dons du Christ ressuscité et glorifié sont les personnes. Une manière de dire que nous sommes tous des cadeaux les uns pour les autres. Les personnes. Chacune dans sa spécificité. Donc là, ce n'est pas François qui a reçu un don, mais c'est François qui est un don. Alors François a certainement reçu beaucoup de cadeaux de la part du Seigneur, mais François est aussi un cadeau, comme Vincent est un cadeau, comme Marianne est un cadeau, voilà, etc. Et là, c'est... Ces personnes en particulier qui exercent des ministères importants pour l'Église, c'est certains pensent qu'il y en a 5, mais en fait il y en a 4 d'après la syntaxe grecque, apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs-enseignants d'après la syntaxe grecque. C'est clair que ça désigne les mêmes personnes dans ce passage. Donc que ce soit des pasteurs-enseignants, on pourrait mettre un trait d'union entre les deux. Dans 1 Pierre 4,11, c'est, là, il n'y a pas vraiment d'énumération de dons, mais il est dit qu'on a reçu des dons différents, que chacun les met au service des autres. Et ensuite, il est question soit de parler, soit de servir. Donc, ça permettrait de classer les dons, comme certains l'ont fait, entre dons de parole et dons de service. C'est une classification utile, même si ce n'est pas la seule qu'on peut faire, tout en sachant que... il n'y a pas non plus de frontière étanche entre les deux, parce que selon la conception néo-testamentaire, parler de la part de Dieu, c'est un service et non pas une manière de dominer. C'est un ministère au sens d'un service, parler de la part de Dieu. Et on ne peut pas servir, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, même dans un contexte tout à fait séculier, de servir quelqu'un sans ouvrir la bouche, mais ça fait pas très aimable, disons. Donc, le service s'applique aussi la parole. Hein. Sans ouvrir la bouche ou sans faire aller sans utiliser le langage des signes, si c'est pour les personnes malentendantes. Mais il y a toujours... C'est une parole dans un autre sens, hein, le langage des signes. Donc là, c'était pour dire que ces listes sont utiles, mais qu'elles n'énumèrent pas absolument tout ce que le Seigneur pourrait donner à l'Église aujourd'hui. On posera la question de l'étude suivante. Est-ce qu'il y a des choses qui se numérisent là et que Dieu n'a plus jamais donné à l'Église pendant des siècles? Mais ça viendra pour la prochaine étude. Alors, on en arrive à la question des quatrième point, des dons entre guillemets naturels ou des dons entre guillemets spirituels. Il y a là une fausse dichotomie, mais on fait souvent cette dichotomie. Les dons naturels seraient là depuis la naissance, les dons spirituels serait vraiment un miracle qui arrive dans la vie d'une personne, quelque chose qu'il ne pouvait pas du tout faire avant, il ou elle le fait. Alors c'est une fausse dichotomie parce que ça présuppose, donc derrière spirituel il y a le mot esprit, Saint-Esprit, ça présupposerait que quand vient le Saint-Esprit, eh bien, c'est forcément des choses totalement nouvelles qui surviennent, et tout ce qui était de la vie de l'homme de la femme depuis sa naissance, de son éducation, de son développement, eh bien tout cela, ça n'aurait rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc dans ce sens-là, c'est une fausse dichotomie, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si ceux qui sont plus... comme on dit, charismatiques, nous disent, mais est-ce que vous avez des dons spirituels ou seulement des talents? Voilà. Ce n'est pas tout faux de ce qu'ils disent. Il faut écouter leurs questions. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une part, des choses qu'on a crues? Alors, peu importe qu'on ait cru qu'on n'était pas capable de les faire ou qu'on n'était vraiment pas capable de les faire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on n'avait jamais faites jusqu'au jour où le Seigneur nous a mobilisés? Il nous a équipés. Est-ce qu'il faut seulement se baser sur les analyses, sur des tests psychotechniques que n'importe qui pourrait faire pour distribuer les ministères dans l'Église? Est-ce que le Seigneur ne peut pas nous faire bouger dans un domaine où on était totalement incapable, ou peut-être on se croyait incapable? Et peu importe que on se croyait, que ce soit le cas de figure où on se croyait incapable, mais c'était quand même une capacité entre guillemets naturelle qu'on ignorait, ou si vraiment ça a été donné tout d'un coup par le Saint-Esprit, peu importe. À un moment donné, on est sorti de, pour employer une expression à la mode, de notre zone de confort, parce que le Seigneur nous a donné le petit coup de pied là dans l'arrière-train pour nous en faire sortir, et on a commencé à faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, et ce quelque chose, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on le fait à la perfection, mais le Seigneur l'utilise. Et avec le temps, on le fait toujours mieux quand même. Alors moi, je dois dire que depuis que 13 ans que je suis dans le ministère pastoral à Cours, je ne compte plus les choses dont je m'étais dit en arrivant. Je l'avais même dit, au conseil en tout cas, c'est pas dans mes cordes, je ne le ferai pas. Et que je fais. Alors, j'arrive plus à les compter. Mais... Et ce ne sont pas des choses qui seraient classées comme miraculeuses. Hein, donc, je ne suis pas devenu charismatique dans ce sens-là. Mais le Seigneur nous fait bouger. Et il nous donne des aptitudes insoupçonnées parfois. Alors, D'autres chrétiens fonctionneront toujours avec les aptitudes qu'ils se connaissaient et puis seront aussi utilisés par le Seigneur comme ça. Il faut justement rien exclure et ne pas dire que le naturel, entre guillemets, serait inférieur au spirituel, entre guillemets. Mais écouter les questions de certains et se dire il ne faut pas se cantonner à ce qu'on a toujours su faire. Et il peut y avoir des, là je reviendrai à la notion de miracle, des développements, des évolutions chez certaines personnes qu'on pourrait qualifier de miraculeuses parce qu'on n'aurait jamais cru qu'elles pouvaient faire ça. Et elles le font avec la bénédiction du Seigneur. Et puis, une autre fausse dichotomie, c'est entre le naturel et le surnaturel. C'est une fausse dichotomie parce que la nature, qu'est-ce qui est nature et qu'est-ce qui n'est pas nature ? Finalement, la définition a constamment bougé au cours des siècles et des cultures humaines. Des choses qui n'étaient pas naturelles parce qu'on se disait que on n'avait pas d'explication sont devenues naturelles aujourd'hui avec les progrès de la science. La science explique les orages, alors pendant des siècles, on n'en avait pas d'explication scientifique. Donc, on y voyait une intervention directe de Dieu. Mais en même temps, le fait qu'on ne voit plus dans les orages une intervention directe de Dieu, c'est peut-être une perte de sensibilité à Dieu. Donc, là aussi, la dichotomie, elle est piégée. Parce que si on dit naturel, eh bien, c'est expliqué par la science. Eh bien, avec cette notion, cette dichotomie entre le naturel et le surnaturel date en fait surtout du siècle des Lumières. Et avec cette dichotomie, eh bien, si quelque chose a une explication scientifique, ben tout d'un coup, Dieu est à distance. Alors, on offrira une théorie qui peut même être théologiquement fondée. On dira Dieu utilise des causes secondes. Mais j'ai peur que quand on parle de causes secondes, alors, bien sûr, c'est une notion qu'il faut aussi utiliser si on veut rendre compte de la réalité. Mais si on a trop parlé de causes secondes, on en arrive finalement à mettre Dieu à une toujours plus grande distance, alors qu'il se préoccupe du moindre passereau et du moindre cheveu qui tombe à terre, d'après Jésus. Peu importe que ce soit expliqué par la science ou pas, Dieu est derrière. Et avec la dichotomie, eh bien, on peut en venir. En fait, tous les chrétiens encore croyants, confessants, en sont venus avec le développement des Lumières et de la critique de la foi traditionnelle qui est venue avec ça. Ils en sont arrivés à chercher un refuge surnaturel, ou dire, eh bien, là c'est notre place forte, là la science ne peut pas entrer parce qu'elle n'a pas d'explication. Ça peut être, pour ceux qui étaient plutôt du genre orthodoxe, quand on est dans le passé, oui, les miracles sont racontés dans la Bible, ils sont vrais et toute une apologétique s'est développée là autour. Les prophéties se sont réalisées, vous voyez, la science ne peut pas l'expliquer, c'est surnaturel. Pour ceux qui sont plutôt charismatiques avant la lettre ou charismatiques, parce qu'il y en a eu depuis le début du 19e siècle, mais on ne parlait pas encore de mouvement charismatique, surtout qu'ils ne parlaient pas en langue à l'époque, à quelques exceptions près. Mais parmi ceux qu'on pourrait mettre dans la catégorie charismatique, eh bien là, la forteresse surnaturelle, eh bien, c'est le surnaturel dans le présent, et pas simplement le défendre, les miracles passés dans la Bible. Donc, la dichotomie est fausse, parce que on déloge Dieu, si je veux caricaturer, on déloge Dieu de ce qui est naturel, et puis on survalorise ce qui est surnaturel. Par contre, il y a quelque chose à entendre quand certains disent « Dieu fait du surnaturel aujourd'hui ». C'est justement la notion de miracle qui, elle, est une notion biblique. Alors le miracle ne se définit pas par la science, parce que sinon, eh bien, on soumettrait la Bible à une science qui s'est développée bien plus tard que les temps bibliques. Mais le miracle, c'est tout ce que tout ce qui surprend, étonne, bouscule les humains, dont ils disent « je comprends pas, mais ça s'est passé ». C'est comme ça que je définirais le miracle. Et j'y reviendrai, mais moi je crois fermement qu'il faut attendre des miracles aujourd'hui. Donc, ne pas se focaliser sur la différence entre naturel et surnaturel au point de dévaloriser le naturel, entre guillemets, mais attendre des miracles aujourd'hui. Alors, cette notion surnaturelle, elle est de nouveau venue sur le devant de la scène dans le monde évangélique, depuis qu'il y a l'église de Bethel en Californie qui a développé un ministère mondial. D'ailleurs, il existe aussi... En Californie, il y a l'école des ministères surnaturels. Donc, on peut aujourd'hui faire une école, genre école biblique un peu particulière, pour opérer des miracles surnaturels. Ouais. Non, mais c'est pas enfin, ça ressemble à ça. Et puis, ça s'est mondialisé. Donc, il existe aujourd'hui une école des ministères surnaturels francophones. Et si j'ai bien compris, elle n'est pas localisée dans un lieu précis, tout se fait en ligne, voilà. Le responsable s'appelle David Terry, il habite à La Réunion, mais il a été pasteur au Québec, enfin, je ne sais même pas s'il est français ou québécois, mais...
Ou une fois, c'est pas en Suisse.
Voilà. Et c'est lié à Bethel, c'est la partie francophone du mouvement de Bethel, parce que Bethel, c'est plus seulement une église locale en Californie, méga église, mais c'est devenu un mouvement mondial. Alors j'en viens au cinquième point, diversité des dons et des ministères. Cette diversité est claire dans l'argumentation de Paul dans 1 Corinthiens 12. Un des grands points de son argumentation, c'est qu'il n'y a pas deux ou trois dons qu'il faut absolument rechercher parce que là, on aura la manifestation de l'Esprit. Si on lit jusqu'à la fin de 1 Corinthiens 14, on se rend compte que c'était ça, un petit peu la notion de ceux des Corinthiens qui avaient écrit à Paul. Et à qui Paul répondait. Mais il y en a beaucoup d'autres. Ces énumérations de Corinthiens 12, un début, c'est de montrer qu'il y a plus que deux ou trois dons qu'il faut tous rechercher. Mais nous, aujourd'hui, peut-être aussi que nous n'avons pas assez conscience de la diversité des dons. Soit que nous sommes du côté de ceux qui sont plus charismatiques, peut-être qu'il peut aussi avoir la tendance à se focaliser sur quelques dons. Alors aujourd'hui, c'est moins... Il me semble qu'on parle moins des langues, surtout qu'au niveau de la spiritualité, de ce qui est de l'expérience spirituelle, depuis la bénédiction de Toronto, ça s'est diversifié, il n'y a pas seulement le parler en langue. Mais aujourd'hui, en fait, on parle de plus en plus de guérison, beaucoup plus que de langue. C'est beaucoup plus au cœur du débat, en tout cas. Mais on peut se focaliser uniquement sur des guérisons. Mais si on est réticent par rapport à ces tendances, on peut aussi se cantonner sur les quelques dons dont on a besoin dans notre église locale ou dont on croit que ce sont les seuls dont on a besoin et finalement chercher à remplir des cases vides de l'organisation de l'église. Puis quand il y a une case vide, eh bien, on se met à penser « Ah, il existe un don pour ça ». Alors si on considère que les dons musicaux au service de l'église, c'est un charisme, et moi je le pense, même si ce n'est pas dans les listes qui sont dans le Nouveau Testament, parce que c'est un cadeau du Seigneur pour l'Église et que ce n'est pas donné à tout le monde d'être, de bien jouer la musique ou de bien chanter, eh bien, est-ce que c'est seulement quand un musicien, une musicienne quitte l'Église ou tombe malade ou est surbookée, comme on dit, puis qu'elle doit abandonner certaines activités, est-ce que c'est seulement à ce moment-là qu'on se met à penser, il y a une case vide, ah, le Seigneur a peut-être donné des dons musicaux, ou est-ce que on pense à la diversité des dons en tout temps, et peut-être même des dons pour lesquels il n'existe pour le moment aucune case vide, mais si on commence à connaître les personnes, voir s'il y a là un autre don que ceux auxquels on pense dans l'organisation de l'Église et qui pourraient être mis en valeur. Donc il faut toujours penser, s'ouvrir plus à une diversité de dons que le Seigneur peut donner à l'Église. Alors là, je n'arrive pas tout à fait à une heure, mais peut-être que j'introduirai la deuxième, je ne sais pas. Alors j'arrive, le dernier point, c'est simplement que je cite le dernier verset de 1 Corinthiens 12. J'ai traduit moi-même par « rechercher passionnément les dons les meilleurs ». Ça peut surprendre, parce que plus haut il a dit que c'est l'Esprit qui les donne souverainement comme il le décide, les dons. Alors est-ce qu'on peut rechercher quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas décidé pour moi, que je peux rechercher quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas décidé pour moi? Mais c'est toute la question de la souveraineté divine et de la responsabilité humaine. C'est pas parce que le Saint-Esprit est souverain que moi, je dois simplement attendre passivement que tout d'un coup, il me révèle « Tu as reçu ce don !» Il y a aussi une recherche. Et dans cette recherche, tout n'est pas égal. Paul dit qu'il y a des dons meilleurs que les autres. Ensuite, il dira « Mais ». En fait, ce n'est pas un « mais », c'est un « et ». Mais ça équivaut à un « mais ». Je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Là, il va passer à 1 Corinthiens 13, où il élargit le débat, mais c'est toujours en rapport avec la discussion sur les manifestations spirituelles, pour montrer que même les meilleurs des dons ne sont rien sans l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose que l'Esprit donne à tous les chrétiens. Là, il n'y a pas, certains l'ont, certains ne l'ont pas, ou alors si certains ne l'ont pas, il y a vraiment un problème. C'est ce que Paul veut dire. Mais recherchez passionnément les dons les meilleurs. Nous verrons dans l'étude suivante selon quels critères certains dons seraient meilleurs que les autres. Même s'il y a une grande diversité, tous ne se valent pas. Alors, dans 1 Corinthiens, Paul va montrer que les prophéties sont bien supérieures aux langues. Par exemple, il expliquera pourquoi. On peut appliquer son raisonnement à d'autres dons. Alors, on y aidera dans la deuxième étude. Quels sont les critères pour l'utilité d'un don et donc ceux qui seront plus à rechercher.
Oui. Et puis je me présente comme ayant eu le don de guérison, être en mesure de pouvoir. Oui. Donc, pour ne pas non plus la situation.
Ou certains le comprennent comme ça, mais quand il dit rechercher les dons les meilleurs, peut-être que ce n'est pas de façon permanente. Par exemple, les prophètes, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, il y a les deux qui sont reflétés. Il y en a qui sont appelés prophètes, ça veut dire qu'ils sont prophètes de manière assez permanente. C'est même le titre d'un ministère dans l'Église. et qui était connu en dehors des lettres paulinienne. Il y a bien des témoignages que le ministère de prophète était connu dans l'église primitive et l'église ancienne. Et par ailleurs, Paul souhaite que tous les chrétiens prophétisent, dans 1 Corinthiens 14. Ça ne veut pas dire que tous sont prophètes. Ils peuvent prophétiser de façon occasionnelle, de façon ponctuelle. Et peut-être que rechercher passionnément dans les meilleurs, c'est aussi rechercher en exercer ponctuellement quand le Seigneur le donne, quand le Saint-Esprit le donne. Par exemple, pour parler des guérisons, fille qui n'est pas du tout fermée aux guérisons miraculeuses, au contraire, il dit dans son commentaire à un moment donné que l'Église d'aujourd'hui est bien trop frileuse vis-à-vis des guérisons surnaturelles ou des guérisons miraculeuses. Il est pentecôtiste. Mais il dit aussi dans le même commentaire, et ça m'a intéressé, que c'est son interprétation, puis on y viendra. Pourquoi c'est des dons de guérison au pluriel? Lui, il pense que ce pluriel veut dire que c'est des dons qui sont donnés et redonnés parce que, pour lui, il n'y a pas de guérisseur permanent. Alors, c'est intéressant d'entendre ça de la part d'un pentecôtiste. Voilà, c'est ponctuel. Tout d'un coup, il y a un miracle qui se fait par un chrétien, c'est un don de guérison, mais en tout cas, dans le langage de Paul, Paul ne dit pas qu'il y en a qu'il possède de manière permanente.
Une guérison n'est pas vraiment un don de guérison.
Voilà, oui, oui.
Est-ce que ça correspond aussi à cet ordre de Jésus qui envoie ses ministères pour annoncer et guérir aussi?
Voilà, oui, oui.
C'est un don qu'on peut exercer, que n'importe quel, finalement, disciple de Christ peut exercer à un moment.
Bien sûr.
Et là, il ne faut pas opposer naturel et spirituel dans ce sens. Le fait qu'on ait des dons naturels, et tant qu'on n'est pas soumis à la Seigneurie de Christ, ces dons ne glorifient pas. Dieu, au plein sens du terme, vous les adorez. Et les dons spirituels sont un cadeau qui nous sont apportés dans le sens où c'est jamais pour nous, mais pour l'Église.
Oui.
Pour le bien de l'Église, et puis de l'Église, ça peut nous confier.
D'où le fait que c'est une fausse dichotomie.
Moi, je dirais qu'une capacité naturelle ne m'a pas nécessairement un don. Moi, je pense que quelqu'un qui a la parole facile, qui s'exprime facilement en public, s'il est chrétien, mais s'il n'a rien à dire, bon, il ne pourrait nécessairement pas parler. Enfin, alors qu'il pourrait paraître avoir un don de la parole.
Alors peut-être que là, ce qui est intéressant.
C'est une attitude, mais c'est pas nécessairement.
Voilà.
Voilà.
Alors,
faut. Et tout, mais bon, s'il n'y a pas vraiment des choses profondes et utiles à dire.
Il faut peut-être distinguer aptitude et don, dans le sens où Paul emploie le terme, que le Seigneur a donné des dons à l'Église. Et aux membres de l'Église pour l'utilité commune. Un don peut être une aptitude, mais pas forcément. Ça peut être justement une situation où moi je suis face à une maladie, le malade veut être guéri, donc c'est pas le genre à dire j'accepte ma maladie, c'est comme ça. Bon, il faut ensuite discerner si cette volonté d'être guéri, ça correspond à une volonté du Seigneur. Et puis si je suis conduit en écoutant le Seigneur à dire, ben, là je peux prier, pas simplement vaguement, mais dire, demander la guérison, et qu'ensuite il y a une guérison, eh ben, il y a eu là, en cette occasion, non pas une aptitude à guérir, mais un don dans un événement, qui est l'événement de la guérison.
Un don qui n'était pas don à la personne, le don, c'est la guérison.
Ouais, c'est ça. Mais c'est passé par un frère ou une sœur, parce que Dieu nous donne des frères et des sœurs pour nous aider, nous accompagner.
C'est l'action de Dieu pour la guérison.
Je suis passé par quelque chose comme ça. Je suis sur ce point. Je souffrais beaucoup d'années avec une douleur stomacale.
Oui.
C'était presque une ulcère.
Oui.
Sans rien dire, quatre femmes de mon église d'origine de São Paulo sont venues chez moi sans avertir, sans rien dire.
Oui.
Elles ont sonné, sont rentrées. Tout de suite, même pas un bonjour, bonsoir, avec sorte, mets-toi à genoux. Ça suffit. Cette maladie dans ton estomac doit partir.
Oui.
Je me suis mis à genoux, simplement. Elles ont prié. Et depuis, je ne veux même pas demander, Seigneur, que tu me vois, tu as le plus puissant, je crois, mais depuis tout.
En plus, tu n'aurais même pas été demandeur. Alors, certains disent qu'il faut seulement prier pour les malades s'ils sont demandeurs. Là, tu ne l'étais même pas demandeur.
Non. Et en plus, ces quatre femmes, on ne peut pas dire qu'elles ont le don de guérison permanent.
Voilà,
parce que ce n'était pas non plus permanent dans notre église.
Voilà.
C'était tellement ponctuel.
Oui.
Un événement.
Oui.
Continuez par en masque. Ce qui veut dire que c'est pas quelque chose que je vais garder peut-être ma vie. Quoi. Et donc elle est dépendante pour qu'elle soit utile pour Dieu, du Seigneur.
Voilà, oui. Voilà. Alors.
Non.
Alors là, je remarque. Là, je remarque aussi par rapport à la parole que Paul ne parle jamais du don de parler, mais de don de parler spécifique. Justement, c'est la question du contenu. Alors, on en parlera tout à l'heure. Prophétie, c'est un type de contenu qui n'est pas le même que celui de l'enseignement. Mais justement, ce sont des prises de parole spécifiques que Paul classe comme prophétie. D'autres chrétiens primitifs aussi classés comme prophétie ou enseignement, par exemple. Et donc, le don du Saint-Esprit inclut le contenu dans ce cas-là. Voilà. Tout à fait. En même temps, notre notion du ministère pastoral, le pasteur rémunéré, il veut dire, ça s'est professionnalisé au cours de l'histoire de l'Église. Ça s'est même cléricalisé, hein, mais dans les milieux évangéliques, on a voulu réagir contre le cléricalisme, mais il y a une professionnalisation que certains diront qui correspond aussi à l'héritage cléricaliste. Mais en tout cas, ça s'est professionnalisé, et du coup, on a cette profession de pasteur, mais ça recouvre des réalités qui étaient perçues comme des réalités parfois différentes à l'époque du Nouveau Testament. Donc, Éphésiens 4:11 parle du pasteur enseignant, même personne, mais en tout cas dans ce texte-là, mais le pasteur dirigeant, peut-être bien que dans l'église, dans les églises pauliniennes, c'était quelqu'un d'autre que l'enseignant, le dirigeant. Et puis, mais il y avait un coordinateur aussi. Il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un qui coordonne et qui dirige, comme si on idéalisait l'Église, qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un qui coordonne. Mais c'était peut-être quelqu'un d'autre que le pasteur enseignant. Ensuite, la personne qui accompagne, qui encourage. Alors, est-ce que c'est la même que l'enseignant ou est-ce que ça peut en être une autre? Je pense que même dans l'Église primitive, c'était parfois la même, parfois une autre. Et certainement, pour qu'une Église fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui encourage, même si le pasteur sait très bien encourager. Mais voilà.
Donc, oui. Dans ce cas, il faut faire une distinction entre fonction et
oui.
Donc,
ce n'est
pas dire que là, ce sera le gouvernement propre exemple.
Oui.
Je ne me vois pas du tout comme un pasteur dirigeant.
Oui.
Je me vois plutôt dans le pasteur enseignant.
Oui.
Là, je me trouve
oui.
Et je ne cache pas l'église.
Oui.
Donc, de toute façon, je vois tout de suite.
Oui.
Pendant l'étude biblique, la prédication, je viens là dans ton nom. Mais en tant que pasteur, dans cette professionnalisation, je dois accomplir certaines tâches.
Oui.
Et là, ça m'écoute un peu plus, mais oui. Il faut oui. Le faire.
Oui.
Donc, on peut faire cette distinction oui. Fonction et don.
Oui.
C'est une fausse dichotomie.
Voilà, oui, voilà.
Il y a peut-être un miracle.
Oui.
Amen.
Oui.
Il y a là aussi pour moi quelque chose d'un équilibre, c'est que nous faisons donc pour être pasteur souvent des études, on nous explique les méthodologies aussi, il y a de la méthode, bien sûr on met l'accent dans toutes les écoles, j'espère dans toutes les écoles, sur l'importance de la dépendance du Seigneur, de la soumission au Seigneur. Mais il y a quand même de la méthode.
Oui.
Du temps aussi donc, de l'Ancien Testament, il y avait des écoles de prophètes.
Oui.
Est-ce que c'était de la méthodologie? Est-ce que c'était d'apprendre à dépendre du Seigneur? Et quand j'étais jeune chrétien, je côtoyais mon père spirituel, il avait une tendance charismatique. Et donc, je me rappelle, il m'avait offert deux bouquins d'Américains pour apprendre à parler en langue, la méthodologie.
Oui.
Et je me rappelle que je m'étais mis à essayer de rentrer dans cette méthodologie et je ne dis pas leur dis pas. Alors je me dis, quelle est la part finalement de la méthodologie? Est-ce qu'il y a là une dichotomie qui est existante? Est-ce que Dieu se sert aussi de la méthodologie? C'est la réponse un peu. Mais voilà, donc cette. La méthode, oui. On voit là, ces revers de médaille,
oui.
Des reins, finalement, est-ce qu'on doit apprendre à guérir, est-ce qu'on doit apprendre à faire des miracles,
oui.
Mais quelque part, on apprend aussi
oui.
À servir, à prêcher, voilà. Oui. Donc,
c'est un peu ce que tu as dit sur Bethel.
Oui, alors à Bethel, ils y croient à fond, hein, que mais là, il y a toute une théologie, hein, on en reparlera un peu. Peut-être, il y a toute une théologie comme quoi toute maladie chez un chrétien déshonore le Seigneur et un chrétien ne doit plus être malade ou il doit en tout cas avoir l'objectif de ne plus l'être. Et puis, toute la guérison est déjà réalisée à la croix, c'est cette théologie-là. Et ensuite, il faut la mettre en œuvre. Alors, selon le langage courant aujourd'hui, on dit en anglais « to release », donc libérer la puissance qui est déjà là. Et pour libérer la puissance qui est déjà là, il y a une méthodologie, comme s'il y avait... c'est pour ça, il y a une école, l'école du surnaturel.
Est-ce que la mort des chrétiens dans le
Seigneur... Alors, c'est ça la grande faiblesse de cette théologie, c'est qu'ils n'osent pas dire qu'ils soient immortels, puis là, ils n'arrivent pas à avoir une théorie cohérente. Oui.
Je voulais revenir sur la... Ce que Père Alexandre l'a commenté tout à l'heure par rapport à cette dichotomie.
Voilà.
Voilà, les dons qu'on
oui.
peut avoir, et les fonctions que parfois
oui.
on est amené à accomplir.
Oui.
Moi, je pense que ça a été dit de façon explicite ou implicite, le fait de dire, bon, faut pas se cacher derrière le fait de dire voilà, moi j'ai pas ce don là, moi je suis pas, ouais. Un peu dans cette logique là, mais moi j'ai, par rapport à ça, il m'a fait réfléchir, il a fait une attention sur le verset 7 de 1 Corinthiens 12, 7. Et parce que dans la notion ou le mot de manifestation de l'esprit,
oui.
Donc à partir de 8, le verset qui suit, on rentre vraiment dans l'idée des dons,
oui.
Donc ce qui est donné, oui. Vous l'avez bien expliqué au début, il y a comme une énumération qui n'est pas descriptive,
oui.
Mais qu'est-ce qui est donné? Donc,
oui.
En termes global. Donc le verset 7 justement nous dit, il dit, oh, à chacun, on parle de ce qui est donné,
oui.
La manifestation de l'esprit.
Oui.
Donc finalement les dons c'est ça, c'est la manifestation de l'esprit.
Oui.
Donc ça ne peut pas être jamais quelque chose qui, parce oui. que l'esprit il peut se manifester,
oui.
Il est créateur.
Oui.
Donc moi-même, dans ma vie de ministère, parfois j'ai été confronté à devoir assumer des choses, des responsabilités dont je ne me sentais pas,
oui.
mais je ne me sentais pas préparé, équipé.
Oui.
Et je pense que carrément je n'avais pas le don,
oui.
pour le faire. Et ma prière c'était Seigneur, fais-moi grâce.
Oui.
Donne-moi la capacité,
oui.
J'utilise des mots humains pour essayer d'expliquer le divin. Hein, donc,
oui.
Mais Seigneur, donne-moi la capacité, le don,
oui.
Je ne sais pas, donne-moi ce que dont je besoin pour pouvoir accomplir cette tâche. Donc je me sens incapable. Donc manifeste-toi. Donc,
oui.
C'est pour ça que j'ai eu le lien. Donc effectivement, je pense que. Et, je voulais revenir sur cette idée-là. Je pense qu'effectivement, il faut grandir. Là où il y a ce qui a été dit tout à l'heure, parfois c'est ponctuel.
Oui.
Et je pense que moi j'ai eu, Dieu il m'a donné plusieurs fois des dons ponctuels
oui.
pour accomplir une tâche particulière, et puis après, pas forcément, c'est resté, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas. J'ai eu deux fois dans ma vie en 30 ans de chrétien, j'étais amené à prier pour des personnes qui ont été guéries, mais je ne pouvais pas dire. Et j'ai jamais dit non plus que j'avais le don des guérissons ou le don de guérisseur.
Mm.
Mais à ce moment-là, Dieu il s'est manifesté.
Oui.
Tout simplement, il s'est manifesté. Donc, de rester dans l'idée aussi que les dons, parce que parfois, on va bloquer sur. Même si on sait que ce n'est pas une énumération exhaustive, on va rester sur l'idée des dons.
Oui.
Mais derrière ça, il y a la manifestation de l'esprit, et l'esprit du créateur.
Oui.
Au début de ma vie en France, j'ai beaucoup prié pour le monde et l'homme.
C'est intéressant ce que tu dis. Que nous, on considère, souvent, effectivement, j'ai reçu un don du Saint-Esprit.
Oui.
Le Saint-Esprit est parti ailleurs, il s'est occupé de choses, ou je ne sais pas quoi.
Oui.
Alors que là, effectivement, c'est, le Saint-Esprit s'est manifesté par une capacité particulière, par.
Oui.
C'est pas j'ai reçu quelque chose,
voilà,
j'utilise le truc que j'ai reçu.
Oui.
Et c'est bien le Saint-Esprit se manifeste par quelque chose.
C'est ça, tu n'es pas passé à prophétiser une fois que tu deviens prophète.
Oui, voilà,
pas parce que tu as guéri une fois que tu deviens guéri. C'est pas parce que tu as parlé une
fois. En tout cas, pas forcément.
Oui.
Pas forcément.
Mais parce que c'est ça, il y a quand même une terminologie qui dit il y a des dons.
Oui, bien sûr, pour ça.
En tout cas, il n'y a pas des dons limités, forcément. Et c'est vrai que c'est faux de penser que ça ne serait pas limité.
Ouais.
Mais c'est pas. On a reçu un package qu'on utilise, on a reçu un couteau suisse, j'ai plusieurs trucs, je l'utilise. C'est l'esprit qui est en moi, qui fait quelque chose. Et c'est une différence.
Ouais.
Je pense qu'elle devrait avoir plus un, mais effectivement, que j'ai fait quelque chose, j'ai un don, j'ai quelque chose. C'est le Saint-Esprit en moi m'a utilisé comme instrument, c'est moi l'instrument.
Ouais.
Est-ce que tu énumereras un moment quelque part, je dirais, ce qui pourrait amener quelqu'un à s'enorgueillir, à se disqualifier de don. Je ne sais pas si tu vas en parler.
Je n'ai pas prévu, mais ce qui pourrait disqualifier quelqu'un.
Est-ce qu'il peut retirer un don à... Je suis interpellé aussi par la conclusion. Est-ce que... Je pense que le Saint-Esprit veut nous utiliser et veut qu'on soit des vecteurs pour ces dons, ces manifestations dans l'Église et même au-delà. Est-ce que nous, parfois, par notre manque de foi, on bloque aussi
cette manifestation d'esprit, c'est-à-dire que ah, tu peux guérir. Non, je ne crois pas. Enfin, c'est pas le moment, mais c'est pas. Est-ce que notre nature, finalement, peut aussi bloquer cette manifestation? Parce que je pense que Dieu respecte cela aussi. À un moment, si pour parler, pour guérir, pour parler un an, il faut agir, il faut exercer. Et si on ne fait pas ce pas de foi aussi pour manifester cet esprit, ben, finalement, c'est nous qui nous font la barrière.
Alors,
cette volonté aussi de dire, bah, ok, j'accepte ce monde de manifester.
Alors, je vous dirais que c'est pour tout ce qu'on fait de la vie chrétienne. Hein. Ça peut être effectivement pour prier pour une guérison, parler en langue, mais ça peut aussi être tout simplement pour aller visiter quelqu'un. Je ne vois pas comment je peux parler avec cette personne, mais je n'ai rien à lui dire. Ça ne va pas, je n'ai pas d'affinité. Et puis, si on n'y va pas, eh bien on n'y va pas. Le Saint-Esprit ne pourra pas nous utiliser là. Donc, c'est tout le mystère de la liberté humaine et de la souveraineté de Dieu. Mais c'est clair que pour être utilisé par l'Esprit, il faut dire oui, j'y vais, quoi. Ça, c'est sûr. Oui.
En fait, bon, ça me verra peut-être plus tard. Est-ce que c'est pas ça, en fait, notre résistance, finalement, au don de l'Esprit et notre refus de les exercer qui, dans nos assemblées, fait que c'est bon, ça, parfois, n'énerve pas, quoi, finalement, parce que l'Esprit pousse, mais nous, on résiste.
Alors, il faut savoir si l'Esprit pousse ou si tout simplement ça n'était venu à l'idée de personne, mais par exemple, pour le don des langues, ce serait utile à personne. Donc, peut-être qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, mais voilà. Donc, c'est toute la question de l'utilité qu'il faut poser. Ce sera la prochaine étude. Voilà.
C'est aussi la question de se dire, est-ce qu'on n'est pas, dans le ministère qu'on occupe, on n'est pas une barrière assez importante pour que les gens se disent, mais finalement, on ne fait pas du tout. Et c'est nous qui devons nous à l'obstacle.
Oui.
Alors que justement, l'Esprit de donner ce qu'il faut à chacun. Et si on se replace dans l'optique tout est grâce, tout est cadeau,
oui.
On n'a rien à se vanter de quoi que ce soit.
Oui.
Et finalement, on a tous à aspirer dans ce sens, à mieux servir.
Voilà, oui.
On n'a pas à aspirer à un don, parce que c'est celui-là qui fait que.
Voilà, oui, oui.
Oui,
oui.
Et je crois que c'est le manque de compréhension. Monsieur Jésus também nous a fait monter tout ce qui est écrit et il est allé avec ses disciples de toutes les villes et les villages. Il a enseigné l'amour de son frère. Donc, Luc 9, il a appelé les 12, il dit voilà, il devait y aller. Je ne sais pas s'il est allé, il a resté, je ne sais pas, mais l'autre 10, il a appelé 72, il a envoyé aussi, il est allé aussi. Et tous sont venus. En disant, voilà, sans doute, oui, c'est vrai, on donne du sourire là, on cadeau est là, tous sont là. Ça marche, parce que nous sommes amis. Donc, il faut la pratique.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur qui joue, qui est. Alors, on voit donc les dents naturelles qui peuvent être donc utilisées par Dieu après pour. Est-ce que notre parcours de vie aussi peut jouer aussi sur aussi la facilité, voire le freinage, à laisser un don se manifester par à laisser Dieu, l'Esprit, à agir dans un domaine ou dans un autre. Je pense qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont des vies plus faciles que d'autres. Oui. Les personnes qui ont des vies plus difficiles, peut-être, sont beaucoup plus désireuses de voir le miracle.
Oui.
Et donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue.
Oui.
Qui joue. Non.
Ah, ça peut aussi jouer. Oui.
Finalement, en décideur de qu'est-ce qui va être utile et pas utile,
Alors, on en parlera du don des langues, mais Paul le présente comme quelque chose qui peut être très utile pour la spiritualité personnelle, mais il est très réticent dans le Corinthiens 14 par rapport à sa manifestation dans l'assemblée. Du coup, si là, ce n'est plus vraiment... Alors c'est vrai que chaque croyant individuel, c'est l'Église. Mais si c'est surtout utile pour la spiritualité personnelle, est-ce que l'Église empêche forcément quelqu'un d'avoir ce don? Ou simplement, peut-être qu'il y en a parmi nous qui l'ont, mais que personne d'autre le sait, parce qu'ils se disent, eh bien, moi, je ne vais pas me mettre à parler en langue de l'Assemblée. Est-ce que c'est forcément... une mauvaise chose que, voilà, quand on est des cultes où il n'y a pas de parler en langue. Ça ne veut pas dire que personne, à moins que vraiment il y ait un enseignement anti. Mais s'il n'y a pas d'enseignement anti, il me semble que ça n'empêche personne parmi les membres de notre Église d'avoir le don des langues dans sa spiritualité personnelle. Il peut être qu'il y en a, puis il ne l'ont dit à personne, parce qu'il ne voit pas pourquoi il le raconterait, mais je ne sais pas. Voilà, oui, oui. Oui, oui.
Je réfléchissais à ce que vous venez de dire à Bernard sur le dernier commentaire. J'avais tendance à dire, du point de vue de l'anthropologie biblique, que Dieu nous utilise aussi.
Oui.
Parce que c'était que l'esprit qui agissait, il ne se passerait de nous, il ne se passe pas de nous.
Oui.
Et donc, effectivement, là j'ai juste. Dans la tête de Corinthiens 1, on va parler de grand souffle.
Oui.
Et pour être bien, on souffre en soi. On peut souffrir en soi. On peut voir après, on peut s'y accompagner d'autres qui vont vivre la même souffrance. C'est ça. Donc, effectivement, Dieu, je pense que au début, il nous montre que voilà, il y a un appel à la sanctification, à être parfait devant lui, et c'est que, pardon, c'est sûr. Tel que nous sommes aussi, même avec notre faiblesse, il nous grandit avec nous, il prend compte notre parcours, et notre parcours de vie. Et moi j'ai beaucoup en anglais, en espagnol, en français, je n'ai pas la traduction de Romain Doussin,
Dont
il parle de renouvellement d'intelligence.
Oui.
En espagnol, c'est meite, en anglais, c'est mal.
Oui.
Donc c'est vraiment c'est les structures des pensées, chez moi, pensée, c'est vraiment c'est une autre notion. On parle espagnol, en anglais, mais je pense. C'est vraiment une autre notion. C'est vraiment. Nous sommes des êtres sociaux.
Oui.
Donc, depuis qu'ils nous ont menés, notre parcours de vie a en quelque sorte déterminé ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous nous comportons en fonction de comment nous pensons. Et soyons conscients ou pas de ce que nous pensons, ou ce que nous croyons. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce verset de Romains 12, 1 est. Bon, ça c'est très anthropologique parce que Paul nous fait un appel à rénover nos schémas de pensée, mais pour ça, d'abord, il faut être conscient de qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous croyons, parce que parfois, simplement, on agit sans se rendre compte de qui, et c'est de quoi pousse, quoi motive notre. Qui est moteur de derrière nos comportements. Donc là, je pense qu'il y a un appel aussi à se. Dans le sens public, en tout cas, de l'idée, mais à se connaître. Et se reconnaître après dans notre vécu et grandir à partir de ce modèle qui nous avons devant nous, c'est le Christ. Mais je pense qu'il nous utilise, hein, c'est pour ça que
ça peut faciliter, mais aussi ça peut freiner.
Oui, tout à fait, ça peut aller dans les deux sens.
Notre besoin, mais aussi notre approche de telle
chose. C'est à double sens. Mais de mettre en tension d'abord, c'est. C'est essentiel d'après la.
Donc toi tu voulais dire que le parcours de vie peut influer sur les attentes plutôt par rapport aux dons. Voilà.
Mais aussi sur les attentes. Ça peut influencer aussi, je dirais, ce que celui dont je pense Pedro, c'est aussi comment Dieu va nous utiliser. Une personne qui a pris un chemin de souffrance, pense à un frère dans l'église qui il y a longtemps. Donc il avait été un jeune drogué, il a vécu des choses assez terribles, donc la rue et tout le reste. Quand il s'est converti, il n'avait pas particulièrement
Donc il y a des dispositions que Dieu va utiliser par rapport à notre parcours de vie, mais aussi par rapport à notre analyse, c'est-à-dire voilà comment je conçois le don, l'âme, voilà comment je conçois le miracle, la guérison et tout. Je pense que ça influence aussi. Et effectivement, la personne nous demande de l'intelligence pour que des fois ça bouge un peu les doses un petit peu. C'est clair. J'ai l'impression que par rapport au sens que je disais par rapport à l'école de guérison, l'école de prophète qui est dans l'Ancien Testament aussi, j'ai l'impression qu'on aimerait des fois tout analyser, tout cadrer, c'est comme ça tout le temps, c'est comme ça tout le temps, c'est comme ça tout le temps, tout le temps. En fait, c'est pas si simple que ça.
Mais l'école de prophète,
plutôt des
constructeurs de cabanes
qui perdent leur âge.
Oui.
Du coup, on a fait le temps de questions-réponses avant la pause.
Oui.